Réplique, l'héritage de François Furet avec Rana Lévy et Philippe Reynaud. François Furet est mort il y a 26 ans, le 12 juillet 1997. Pourquoi faire une émission sur lui aujourd'hui? Parce que son œuvre méritait d'être lue, relue, méditée, commentée. Ce grand historien a renouvelé l'approche de la Révolution française et il a consacré un livre capital au rayonnement sur les esprits de l'idéologie communiste, Le passé d'une illusion. La Révolution française est terminée, l'espérance communiste s'est fracassée sur la réalité totalitaire, mais toutes les leçons de cet événement et de ce phénomène n'ont pas été tirées, loin s'en faut. Fort de cette conviction, j'ai donc invité deux éminents connaisseurs de l'œuvre de Furet, l'historien Rana Lévy et le philosophe Philippe Reynaud. Commençons par la Révolution. En 1971, Furet publiait dans la revue Les Annales un article qui fit grand bruit, le catéchisme révolutionnaire. Quel était le contenu de ce catéchisme et quelle interprétation de l'événement fondateur de notre modernité politique Furet lui a-t-il opposé, Rana Lévy?
Quand Furet est en train de rédiger le catéchisme révolutionnaire, l'interprétation de la Révolution française est dominée par une sorte de vulgate qui a été même radicalisée depuis la Révolution d'octobre et qui voyait dans la Révolution française une révolution qui liquide un ancien régime dominé par la féodalité. Il s'agit donc d'une révolution bourgeoise qui ne pouvait arriver à son terme en raison des réactions que rencontrait la Révolution française et que Thermidor a fini par enterrer. Et là, cette interprétation a été reliée depuis la Révolution d'octobre avec la Révolution russe, donc, et elle établissait une sorte de continuité entre les deux révolutions avec les mêmes enjeux, les mêmes aspirations. Et il y avait comme une sorte d'accomplissement de cette révolution française entravée par la révolution russe. Il y avait aussi, dans cette interprétation, une juxtaposition d'approches qui n'avaient aucun rapport. Jusqu'à en 1789, l'analyse de l'Ancien Régime était une analyse essentiellement économique d'une France féodale, dominé par ailleurs à la veille de la Révolution par une sorte de réaction aristocratique d'une noblesse unifiée et réactionnaire. Et à partir de 1789, l'interprétation de la Révolution était essentiellement narrative et politique. La juxtaposition de ces deux lectures n'avait aucun sens et d'une certaine manière voilait l'essence de la Révolution française. J'ajoute que Furet et son ami Denis Richet avait publié en 1965 une histoire de la Révolution française qui avait, par certains aspects, un caractère assez orthodoxe. Ils n'ont pas beaucoup rompu avec cette vulgate que Furet avait, dont Furet allait faire une table rase en 71. Mais ils ont commis deux péchés mortels dans ce livre. D'abord, expliquant, à juste raison d'ailleurs, qu'en 89 se juxtaposent plusieurs révolutions. Une révolte parisienne, une insurrection paysanne, une révolution politique qu'on peut appeler la révolution constituante, et l'autre péché qui était encore pire, est la séparation entre un 89 plutôt heureux et la dérive de la terreur. Ils ont utilisé le terme de dérapage qui a fait scandale dont les milieux marxistes-léninistes qui dominaient alors l'interprétation de la Révolution, et cette idée que le jacobinisme serait le dérapage des promesses de 89 a, d'une certaine manière, scellé leur sort.
Mais parce que, effectivement, dans la Vulgate, dans ce que Führer appelait le catéchisme, la terreur était expliquée, elle n'était pas niée, mais elle était expliquée par les circonstances, c'est ça ? La guerre extérieure, entre autres, et surtout même.
Voilà, la thèse des circonstances dominait les deux interprétations, et de la Révolution française et de la Révolution russe. Ils ont fait une place énorme à une contre-révolution omniprésente que la Révolution doit, d'une certaine manière, combattre et surmonter par des moyens exceptionnels. Ce que dit Führer, ce qu'esquisse Führer, déjà, dans le catéchisme révolutionnaire, qui est un balayage énorme des thèses, de petites thèses et d'hypothèses complètement controuvées, c'est que la terreur est un système. Nous avons inventé un système de gouvernement qui érige la terreur en manière de faire de la politique. C'est une première, et cette première-là ne peut pas être réduite à la thèse des circonstances.
Philippe Reynaud.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Ronald Lévy. J'ajouterais peut-être deux choses. La première, c'est que le livre de Führer et de Richer, d'une certaine manière, pourrait être lu comme un livre qui rétablit paradoxalement une autre interprétation marxiste possible de l'histoire de la Révolution, puisque ce qu'il dit, c'est que si on admet l'idée que la Révolution de 89, c'est la Révolution bourgeoise, eh bien, cette révolution, elle est faite en 89. Elle est faite non seulement dans la proclamation des principes, mais avec l'abolition des privilèges. Enfin, l'essentiel de l'œuvre révolutionnaire est accompli de ce côté-là. Bon, il y a des choses importantes qui sont faites par la Convention, mais quand même, l'essentiel est fait en 89, et c'est là que le paradoxe de 93 intervient, c'est qu'effectivement, ce qui était sans doute inévitable, c'est qu'il y ait quelque chose comme un état d'urgence avec la guerre, bon, tout ce qu'on veut, mais la terreur en elle-même est bien autre chose. Et ce qu'ils ont très bien perçu dans l'interprétation qui était développée notamment par Sobol à l'époque, c'est qu'il y a dans la vision jacobino-marxiste, disons, de la terreur, quelque chose de paradoxal, c'est de considérer que la révolution bourgeoise n'est devenue vraiment bonne que quand elle est devenue terroriste. Et ça donne cet éloge très curieux, d'ailleurs, de la terreur parisienne, comme un mouvement populaire qui n'a pas de signification prolétarienne. C'est pas Daniel Guérin, lui, disait que c'était déjà la révolution prolétarienne. Sobol a toujours refusé ça, mais c'est simplement, ça montre que si on veut faire la révolution, il faut pas mégoter sur les moyens.
Ronald Lévy.
Pour la révolution française comme pour la révolution russe, l'interprétation de la terreur est fondée sur l'idée des circonstances, donc c'est une réponse à des défis que la révolution ne peut, que les deux révolutions ne peuvent surmonter que par l'usage excessif d'une force excessive. Mais ce que le livre de 65 esquisse déjà, c'est l'indétermination de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire ne peut pas être contrôlée par des explications rétrospectives, qu'elle a une part d'indéterminée.
Alors, en effet, la thèse des circonstances consiste à dire, et je cite Führer, ce que la révolution comporte de néfaste est dû à ce qui n'est pas elle. Et donc, en Russie aussi, c'est l'inertie du passé russe, la guerre civile, la guerre étrangère, etc. Bon. Et pour la Révolution française, on cherche aussi dans les troubles engendrés par la Révolution la raison de cette radicalisation. Mais là, je m'interroge quand même, parce que dans votre livre, l'expérience du passé, François Führer dans l'atelier de l'histoire, Ronald Lévy, vous citez une phrase de Führer. Je suis un grand admirateur de 1789. Je pense que c'est un événement magnifique. Et je n'aime pas les historiens qui essayent de rabaisser la dimension de cet événement, un des grands événements universels de l'histoire, qui se trouve être un événement français. Oui, mais d'un autre côté, Führer montre que la Révolution a été emporté vers le pire par une logique irrésistible. Et cette logique, Furet dit qu'elle a trois composantes essentielles. D'abord, l'idée d'une régénération de l'homme. C'est ça la révolution. Donc, ce qui empêche cette régénération, c'est l'ennemi de l'homme dans l'humanité. Et une idée qui suit, c'est la politique peut tout. Et dans un monde peuplé de volonté, il n'y a plus d'obstacles, seulement des adversaires. D'autre part, l'idée que le peuple prend la place de Dieu, et le peuple, c'est la volonté générale. Donc, il n'y a pas de place pour les volontés particulières. Mais tout cela est quand même présent dès 89. Donc, comment trier intelligemment le bon grain de l'ivraie, Philippe Reynaud?
Je crois qu'on peut, peut-être admettre que un événement peut être grand et magnifique, tout en ayant une dimension tragique. Je crois qu'il y a ce qui est tout à fait grandiose dans la Révolution, c'est le fait qu'elle inaugure de manière explicite, consciente, des transformations qui avaient commencé dans les révolutions précédentes, mais elle déchire les voiles pour poser un certain nombre de principes qui n'avaient pas été posés aussi clairement. Alors, si vous me permettez une référence philosophique, que je pense que Furet n'aurait pas refusé d'ailleurs, on peut comparer sa position à ce que fait Hegel, à ce qu'a fait Hegel sur la Révolution française, qui a toujours dit que c'était un superbe lever de soleil, mais ça ne l'a pas empêché de déployer, dès la phénoménologie de l'esprit, la continuité entre la fin de l'univers mental de l'Ancien Régime, la liberté absolue et la terreur. Il y a quelque chose de grand, de sublime dans la Révolution française, mais qui est extrêmement périlleux. Je crois que ce n'est pas contradictoire.
Rana Lévy.
Cette phrase de François Furet reprend d'une certaine manière et reformule une phrase de Tocqueville qui lui aussi voit en 89 l'aube d'une nouvelle période de la liberté. Mais Furet a fourni suffisamment d'éléments pour atténuer cet enthousiasme pour 89 en exposant lui-même, et il a évolué, Furet, c'est-à-dire c'est vers la fin, c'est-à-dire vers quand il arrive à écrire le dictionnaire critique de la Révolution française, à préparer les orateurs de la Révolution française et d'écrire l'histoire de la Révolution, on découvre en 89 tous les éléments qui ensuite se radicalisent et finissent dans la terreur, c'est-à-dire une violence inouïe dès 89. Un radicalisme idéologique qui veut, ou qui aspire, Tocqueville le dit, dès le début de l'Ancien Régime et la Révolution, à abolir le passé, à abolir l'histoire et à la recommencer sur des principes universels, ce qui est une ambition vertigineuse et même folle, et dont on voit comment il déploie ses conséquences de 89 jusqu'à Thermidor.
Oui, et d'ailleurs, là, Furet renoue avec des historiens ou des penseurs de la Troisième République. Vous citez aussi dans votre livre Rana Lévy une phrase absolument magnifique de Jules Ferry. C'était dans un article qu'il avait publié en 1866.
Entre les Jacobins.
Parlant justement du jacobinisme et de la Révolution, il dit « Glissant sur la pente que nul ne remonte, elle se perd en cette monstrueuse et puérile rêverie d'une société régénérée par l'échafaud, incroyable mélange d'atrocité et de candeur, d'austérité naïve et de rigueur implacable, de littérature et de cruauté, utopie pédagogique, absurde et sanglante, à laquelle resteront éternellement attachés les noms de Saint-Just et de Robespierre. » On est vraiment très impressionné par cette réflexion, mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un risque de régression? Je me suis posé la question en voyant l'accueil fait au film « Vaincre ou mourir » produit par le Puy du Fou. Je le dis tout de suite, je n'ai pas vu ce film. Mais il porte sur la guerre de Vendée. Et Libération lui a consacré un dossier et une première page. Dossier très critique en disant oui, c'est un film militant, c'est sans doute même un film de propagande, mais pour Libération, ce film doit être critiqué parce que il oppose les bons royalistes aux méchants républicains, et tout se passe comme si, maintenant, pour une partie de la gauche, les républicains, justement, n'avaient pas pu être méchants. C'est-à-dire, le caractère violent et même exterminateur de la guerre de Vendée est complètement gommé. C'est-à-dire, on proteste contre une simplification par une simplification plus radicale encore. Et c'est comme si, effectivement, toute la grande réflexion de Furet sur la terreur et même sur la Vendée n'avait pas eu lieu. Et si on ajoute à cela la popularité de Robespierre et de Saint-Just dans la gauche de gauche, on se dit que on revient peut-être aujourd'hui, c'est la question que je vous pose en tout cas, à une espèce de catéchisme révolutionnaire. Philippe Reynaud.
On revient où on n'en est jamais sorti. Peut-être parce que le bicentenaire, si vous voulez, s'est terminé sans vainqueur ni vaincu. Bon, je pense que les François Furet et ses amis ont fait bouger pas mal de choses, ont modifié le discours public sur la Révolution, peut-être. Mais l'imaginaire du catéchisme révolutionnaire reste quand même extrêmement puissant dans les esprits, dans toute la phraséologie politique française, si vous voulez. On est toujours on a toujours des bastilles à prendre, quand on veut faire des réunions, il faut convoquer des états généraux, etc. Bon, et la terreur reste un phénomène un phénomène impensé, comme on disait autrefois. Alors, ce qui est nouveau, enfin, sur la guerre de Vendée, si vous voulez, ce qui est compliqué, c'est que Furet, d'ailleurs, était à la fois ferme et nuancé sur cette affaire, c'est-à-dire que il a contribué à montrer ou à rappeler l'horreur particulière des guerres de Vendée et de ce qui les entoure. Il faudrait parler de la terreur à Nantes, de la politique de Carrier, de toutes ces choses épouvantables. Mais il avait refusé d'aller dans la direction qui était proposée par l'historien Ronald Secher et le grand Pierre Chounu qui le soutenait sur ce point, c'est-à-dire qu'il avait refusé de s'engager dans l'idée que dans la formule de la guerre génocidaire, parce qu'il voulait éviter les comparaisons anachroniques. Bon, j'ai vu qu'aujourd'hui, on lui attribue généreusement à droite l'idée qu'il a défendue, cette thèse. Il a précisément, expressément critiqué cette thèse. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que la question vendéenne, si vous voulez, c'est une question qui a toujours été difficile à penser. Bon, après tout, dans l'imaginaire républicain, il n'y a pas simplement Clémenceau, qui était lui-même vendéen, d'ailleurs, oui. qui disait que la Révolution était un bloc. Mais si vous prenez le roman de Victor Hugo, 93, c'est un livre qui ne dit pas du tout que les Vendéens sont des monstres. Ça, absolument pas. Il y a des figures qui sont nobles dans le camp des Vendéens, mais qui a l'idée que c'est un moment absolument nécessaire, légitime, etc. De la même manière, d'ailleurs, que le même Hugo, qui a toujours été pour la peine de mort, considère l'exécution de Louis XVI comme un moment indispensable dans l'histoire.
Il y a dans notre culture politique une cécité volontaire et une culture du déni qui persiste et qui s'aggrave. La terreur révolutionnaire donne le pire d'elle-même quand le danger qu'elle dénonce n'existe plus. La Vendée est dévastée dans une sorte de guerre de destruction immonde quand la Vendée est vaincue. Donc c'est pas la peine d'utiliser une terminologie génocidaire pour intégrer l'histoire de la Vendée dans une des tragédies générées par la Révolution française. Ce n'est pas la seule. Or, notre culture républicaine, pour des raisons qu'on peut expliquer, a occulté, mais alors occulté avec un effort énorme et réussi, le régicide. Qui parle aujourd'hui du régicide? C'est un événement immense qui a été et qui reste totalement occultée dans notre culture politique.
Elle n'est pas occultée, on s'en félicite plutôt. Il n'y a que Camus dans L'homme révolté qui dit pourquoi avoir guillotiné un homme simple et bon.
Il y a Macron aussi qui a, au début de son premier mandat, qui dit que nous continuons à vivre cette expérience traumatisante. Bon, il y a le régicide, il y a la terreur, il y a la Vendée, et nous continuons à les envelopper par un déni, par des oublis, par des explications qui aujourd'hui deviennent de plus en plus agressives, qui l'expliquent en général, comme toujours, par la nécessité.
Alors, justement, là, je
voudrais... Il y a une petite variante qui explique comme quelqu'un qui est par exemple un bon historien de la Vendée, qui explique qu'en fait la terreur n'a pas vraiment existé, que c'est une invention des thermidoriens.
Qui dit ça?
C'est Jean-Clément Martin.
Alors, à cet égard, je pourrais vous donner la réponse d'une philosophe républicaine jusqu'au bout des ongles. Élisabeth de Fontenay, dans La grâce et le progrès, ses réflexions sur la Révolution française et la Vendée, et elle cite... notamment un représentant du peuple dans les départements de l'Eure, qui avait dit ceci sur les Vendéens, blancs ou bleus d'ailleurs, qui étaient loin du théâtre des opérations, les laisser échapper serait partager le crime de leur existence. Elle cite aussi Camille Desmoulins, le doux Camille, oui, qui disait ceci, « Je ne conçois pas comment on peut condamner à mort sérieusement ces animaux à face humaine, on ne peut que leur courir sus, non pas comme dans une guerre, mais comme dans une chasse. Et quant à ceux qui sont faits prisonniers dans la disette de vivre dont nous souffrons, et ce qu'il y aurait de mieux à faire serait de les échapper, de les échanger contre leurs bœufs du Poitou. » Et enfin, Westermann à la Convention, il n'y a plus de Vendée, citoyen républicain, elle est morte sous notre sabre libre, avec ses femmes et ses enfants. Je n'ai pas de prisonnier à me reprocher, j'ai tout exterminé. Voilà quand même ce qui s'est passé, en effet, et il est malheureux qu'on ne veuille plus le voir, en raison d'un film qui est peut-être, en effet, un film de propagande, mais c'est peut-être une persistance, vous dites, du déni ou une régression, mais je crois qu'on peut le regretter. Alors maintenant, je voudrais que l'on envisage l'autre grand livre de François Furet, Le passé d'une illusion, et peut-être nous attarder d'abord sur son premier chapitre, admirable, La passion révolutionnaire, et ce qu'il dit de la bourgeoisie. Rana Lévy.
Il essaie de comprendre d'où vient dans notre culture nationale au XIXe siècle, au début du XXe siècle, cette haine féroce du bourgeois dans une France qui est devenue largement bourgeoise. Et il énumère les quelques traits de cette haine de la bourgeoisie qui est d'abord... Du point de vue de rescapés de l'Ancien Régime, c'est la haine des vainqueurs de la Révolution, des vainqueurs de l'Ancien Régime. Il y a aussi la haine du capitaliste, il y a aussi la haine de l'argent, et surtout une sorte de contradiction que Furet repère avec d'une manière très inspirée et très juste, c'est la contradiction interne du bourgeois qui est un enfant de l'égalité et qui, par sa réussite, aspire d'une certaine manière à surmonter ou d'une certaine manière ou à trahir les principes de l'égalité par la réussite personnelle. Et c'est peut-être le moment le plus intéressant de cette analyse de la haine de la bourgeoisie où il parle d'un bourgeois dont une moitié déteste l'autre. Et donc il est miné d'une certaine manière de l'intérieur, à la fois par son adhésion à des principes et ce qu'il aurait peut-être appelé la trahison de ces principes.
Oui, c'est-à-dire, il le dit d'ailleurs, au cœur de la passion anti-bourgeoise, et se trouve le remords constant du bourgeois, sa mauvaise conscience. C'est une classe économique, la bourgeoisie, en effet. Donc, elle se définit par sa réussite, mais sous le drapeau de l'égalité. Il y a un problème, et il montre bien, Furet, que, effectivement, la part, donc, de cette mauvaise conscience dans l'émergence de la passion révolutionnaire. Et il insiste aussi sur ce fait, ce trait unique de la démocratie moderne dans l'histoire universelle, une capacité infinie à produire des enfants et des hommes qui détestent le régime social et politique dans lequel ils sont nés. Philippe Reynaud, est-ce que vous avez des choses à...
Je crois que... Il me semble qu'il ne parle pas seulement de la France, en l'occurrence, puisque il s'agit quand même de comprendre l'ensemble de l'histoire de l'illusion communiste, qui a été particulièrement forte en France, mais qui a existé un petit peu partout. Et je pense que c'est une analyse qui est fondamentalement tocquevillienne dans son inspiration, et que ce qu'il saisit, c'est le moment où ce qu'on pourrait appeler la dialectique de l'égalité des conditions prend une dimension dramatique ou tragique. L'égalité des conditions, c'est le au sens de Tocqueville, c'est le fait que la démocratie moderne vit non pas dans l'égalité réelle, mais dans ce qu'il appelle une égalité imaginaire, qui fait que la croyance de base de la société, c'est la croyance à l'égalité, et qui fait que cette société est sans arrêt en travail sur elle-même, et que d'ailleurs, quand les inégalités se réduisent quelque part, on en découvre d'autres qui deviennent le nouveau scandale, etc. C'est la dynamique normale de la société bourgeoise ou de la société démocratique. Simplement, je crois que ce que perçoit Furet, c'est le fait que cette dynamique ou cette instabilité, comme on veut, peut être l'objet de deux critiques radicales symétriques. Et qui sont d'ailleurs à la fois portés par les bourgeois et portés contre les bourgeois. On peut la critiquer en disant que, puisque l'égalité n'est pas accomplie, il faut l'accomplir complètement. C'est le noyau de l'illusion communiste. Et dans ce cas-là, on dénonce la bourgeoisie parce qu'elle est infidèle à ses promesses, parce que la révolution bourgeoise n'est que la première, etc., etc. On peut aussi la critiquer en disant que si cette égalité n'est jamais réalisée, c'est parce que l'égalité elle-même est un mensonge. Et ça, c'est le noyau, me semble-t-il, des critiques d'extrême droite qui sont également dirigées contre la bourgeoisie. Et ce qu'il faut voir quand même, c'est que dans ces très belles pages complexes, Furet met au premier plan évidemment la dimension révolutionnaire de la problématique anti-bourgeoise, mais n'ignore pas la violence de la passion anti-bourgeoise également dans le camp réactionnaire. Et c'est ça qui est très, très intéressant, puisque c'est ce qui lui permet, d'ailleurs je crois intellectuellement, de penser de manière intéressante les relations entre le fascisme et le communisme, disons, pour simplifier.
Alors là justement, Furet réfléchit en effet au communisme et au nazisme, et cela étant leur différence, mais il ne refuse pas le concept de totalitarisme. Il le reprend à son compte, et là, je voudrais vous faire valoir une objection à ce concept, et savoir, selon vous, quelle est votre réponse, et quelle serait la réponse de Furet. Cette objection, je la trouve dans le dernier livre de Régis Debray, L'exil à domicile. Il dit « Notre classe d'âge aura vu l'étiquette totalitaire enfournée dans un même sac poubelle, la croix gammée et l'étoile rouge. » Et il dit « Le facho de base consonnait avec l'Obersturm Führer, mais le vendeur de l'Huma dimanche n'était pas du même bois dont on fait un goulag. » Et il a cette phrase « Cocu n'est pas salaud ». Voilà. Et donc, on ne peut pas parler, justement, même à propos de l'illusion communiste, on ne peut pas la ranger sous la rubrique totalitaire, parce que c'était un mouvement de l'âme très différent de ce qui pouvait porter des gens à choisir le fascisme, voire le nazisme.
Bon, cette phrase, c'est un trait d'humeur. Et je ne sais pas ce qu'il faut répondre à des traits d'humeur d'un écrivain. Mais la comparabilité des deux phénomènes totalitaires, non seulement est légitime, elle est même nécessaire. Et Furet le fait avec la dernière prudence, et il explique, ou il essaie de repérer les traits qui sont communs aux deux phénomènes, sont tombés, et dont les quelques aspérités de la thèse de l'historien allemand Ernst Nolte, qui a établi d'une manière ou d'une autre, une espèce de causalité entre nazisme et communisme. Ensuite, il l'a converti à une notion de noyau rationnel. Mais je ne vois pas où...
Oui, c'est-à-dire, il y aurait un noyau rationnel dans le nazisme qui serait la réponse au danger communiste.
En y ajoutant le rôle des juifs dans le mouvement communiste
international. En plus, il est allé vraiment très loin, Nolte.
Oui, ce à quoi Furet objectait avec beaucoup de clarté. Mais je ne vois vraiment pas en quoi on peut être scandalisé de la tentative de comparer les deux phénomènes, puisqu'il s'agit de deux phénomènes qui aspirent à la totalité.
Oui, mais ce n'est pas les phénomènes, mais c'est qu'est-ce qui pousse au communisme et qu'est-ce qui pousse au fascisme et au nazisme. Et Régis Debray dit, ce n'est pas le même mouvement, Philippe Renaud.
Non, écoutez, je ne sais pas si ce n'est pas le même mouvement, mais ce qu'on peut quand même remarquer, c'est que dans l'histoire des intellectuels, notamment en France, il y a beaucoup d'individus qui ont été dans les deux sens, et successivement, dont certains d'ailleurs sont tout à fait respectables et considérables. Alors, d'abord, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il y a la comparaison des deux totalitarismes nazis et staliniens ou nazis et communistes. Et d'autre part, il y a la comparaison des dynamiques politiques qui font que quelqu'un devient communiste ou devient fasciste, ce qui n'est pas la même chose que de devenir nazi. Si vous incluez ça, bon, écoutez, en France, on peut citer Maurice Blanchot, Claude Roy, Drieu La Rochelle de l'autre côté, Dastier de la Vigerie, enfin des gens qui sont allés de l'Action française ou de l'extrême gauche. Et par ailleurs, beaucoup des collaborateurs français venaient de la gauche, y compris de la gauche communiste, comme Doriot. Donc je trouve, si vous voulez, que s'il y a tant d'individus significatifs qui ont pu successivement avoir les deux passions, c'est peut-être parce que l'idée qu'il y a une sorte de différence morale intrinsèque absolue entre celui qui devient communiste et celui qui devient nazi ou qui devient fasciste me paraît très très artificiel, tout simplement.
Alors, j'ai trouvé la meilleure réponse à la réflexion de Régis Debray, justement chez Furet, dans un passage du passé d'une illusion qui figure dans l'abécédaire de François Furet, que vous avez préfacé, Philippe Renaud. La force intérieure du militant communiste lui vient du sentiment d'accomplir l'histoire comme un souverain bien, d'user des moyens de force au service d'une fin bonne. Loin d'apparaître comme un déguisement du cynisme, ce mélange de genres est perçu comme un impératif catégorique contre l'idéalisme. Et il fonctionne chez beaucoup d'intellectuels et au-delà dans le public comme une justification des violences et des crimes du bolchevisme stalinien, absous ou même célébrés au nom de la fin dont ils sont supposés être les moyens. Donc effectivement, cette dialectique de la fin et des moyens, elle a pu aussi, chez les militants communistes, aussi, enfin, même ils pensaient à un avenir radieux, etc., les amener à légitimer la terreur sans état d'âme. Et donc c'est là que la différence du cocu et du salaud quand même s'estompe un peu, me semble-t-il. Mais alors j'en voudrais maintenant en venir à un passage très important, me semble-t-il, du passé d'une illusion. C'est-à-dire cette illusion après-guerre. Et je vous cite cette phrase qu'elle me paraît vraiment très très forte. L'antifascisme, avec ce mot, tout est dit de ce qui va faire le rayonnement du communisme dans l'après-guerre. Les communistes, d'ailleurs, ne s'y sont pas trompés, qui n'ont cessé de militer sous ce drapeau de préférence à tout autre. Ils n'ont plus jamais voulu d'autres territoires politiques à leur action que cet espace à deux dimensions, ou plutôt à deux pôles, dont l'un est figuré par les fascistes, l'autre par eux-mêmes. Alors, qu'en est-il de cet antifascisme? Et survit-il, d'une certaine manière, à l'illusion communiste aujourd'hui, Renaud Lévy?
L'engagement dans le Parti communiste après la guerre, le fait de devenir communiste est différent à certains égards de l'engagement communiste entre les deux guerres. l'offre communiste comparée à l'engagement fasciste. Mais les communistes ont réussi, après la guerre, un coup formidable, c'est d'étendre à l'ensemble de la droite l'opprobre de la collaboration de Pétain, de Vichy. Et du coup, la droite est devenue une sorte de désert idéologique, non pas sociologique, mais idéologique, qui a laissé une place toute ouverte à l'antifascisme communiste qui, lui, maintenant, commence à englober, surtout au moment de la guerre froide, les États-Unis, les pays capitalistes, etc. Et du coup, les communistes trouvent au lendemain de la guerre une sorte de boulevard pour déployer un antifascisme qui leur permette de vivre et de prospérer et de recruter des jeunes normaliens à leur idéal, où ils cumulent deux choses, c'est-à-dire la croyance, comme vous avez cité tout à l'heure, en un avenir radieux, et une guerre contre la réaction capitaliste, américaine, etc.
Et le fascisme devient un signifiant baladeur. C'est-à-dire voilà. Le fascisme est mort et il n'a jamais été aussi vivant depuis qu'il est mort.
Mais d'autant plus efficace.
Et d'autant plus... Philippe Reynaud.
Après tout, il faut peut-être d'abord rappeler que l'antifascisme devient une dimension absolument centrale, effectivement, du discours communiste en France à partir de 1934, mais que ça n'était pas du tout le cas autrefois. Enfin, auparavant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quand même qu'un des, une des réussites, si j'ose dire, du Comintern à l'époque stalinienne, c'est ce qu'on appelle la troisième période de l'internationale communiste, où le danger principal, c'était la social-démocratie, qui était le social-fascisme, comme on disait, et qui a conduit les communistes allemands à considérer qu'après tout, si Hitler arrivait au pouvoir, ça ne pouvait qu'accélérer la révolution, c'était pas bien grave. Donc l'antifascisme, c'est quelque chose qui naît avec la stratégie des fronts populaires et qui est certainement une élaboration empirique, mais qui permet ensuite de construire, disons, des politiques d'alliance qui sont celles qui permettent de créer les démocraties populaires, etc., où on a des alliés qui sont de plus en plus soumis au Parti communiste à travers la dynamique antifasciste. Alors, est-ce que, par ailleurs, c'est le moteur de l'adhésion au Parti communiste après-guerre? Je n'en suis pas certain. Je pense que c'est un élément central de la justification de la politique communiste, beaucoup plus que ce qui conduit à y entrer.
Oui, mais alors justement, quand même, cet antifascisme a quelque chose de paradoxal. Hitler a été vaincu, Mussolini a terminé pendu, et en même temps, la propagande communiste nous dit que le fascisme n'a jamais été aussi vivant aux États-Unis ou ailleurs. Et est-ce que cet antifascisme est encore présent aujourd'hui? Je me pose la question parce que le mot facho, on l'entend beaucoup pour tout et n'importe quoi. Et surtout, je me demande si un certain type d'antiracisme n'a pas pris la succession de l'antifascisme. Parce qu'à ce moment-ci, on crée un monde à deux dimensions, les racistes et nous. Et on est raciste aujourd'hui... vraiment pour, je veux dire, sans le savoir et sans avoir mérité cette appellation. Enfin, on peut l'être, on peut le devenir. Donc, est-ce que vous percevez cette continuité ou pensez-vous que je délire?
En 89, on avait l'impression qu'avec l'effondrement, la faillite de l'idéologie communiste et la mort de l'URSS, je dirais, la démocratie libérale avait devant elle un avenir radieux. On ne s'est pas aperçu que l'effondrement du communisme a ouvert grand la voie à d'autres extrémismes, à d'autres, je dirais, aspirations à la radicalité qui sont un peu dans l'ADN des démocraties occidentales. Donc l'histoire continue, elle s'est métastasée ou transposée dans d'autres passions idéologiques, mais elle reproduit exactement le même phénomène, l'antiracisme, que est une forme adaptée de l'antifascisme, avec des enjeux quand même différents, mais nous vivons une période qui est une période idéologique. L'idéologie n'est pas la même, elle est beaucoup plus flottante, elle n'est pas très cohérente, elle ne promet rien. C'est-à-dire l'originalité extraordinaire du wokisme, c'est qu'il ne promet rien. Il n'est pas un programme. Il est une sorte de gigantesque incrimination du passé, mais sans perspective d'avenir.
Oui, c'est très inquiétant parce qu'il ne promet rien, donc il est irréfutable. Oui. Parce que l'illusion communiste, on pouvait la confronter à sa promesse. Il y avait un tel écart qu'à un moment donné, ce n'était plus possible. Là, il n'y a pas d'écart puisqu'il n'y a pas de promesse.
Oui, et il est irréfutable aussi parce qu'il est fondé sur l'incrimination. Vous êtes coupable. Où est le terrain possible d'une discussion quand vous êtes déjà, dès le départ, marqué par une sorte de culpabilité historique dont vous ne pouvez pas vous départir?
Philippe Renaud, vous voulez intervenir là?
Je crois que ce qu'il faut... Il faut voir, en règle générale, si, je me répète un peu, mais si on considère qu'il y a deux passions fondamentales suscitées par la démocratie moderne et suscitées par sa demande d'égalité, ceux qui sont portés par l'incrimination contre la démocratie parce qu'elle ne réalise pas l'égalité, considéreront que les bourgeois ou les démocrates formels sont des hypocrites, etc., mais auront toujours comme stratégie inévitable de mettre en avant ceux qui sont explicitement, d'une certaine manière, sans être pour autant fascistes, mais qui sont critiques à l'égard d'une composante quelconque de la passion égalitaire. Donc il y a une asymétrie qui est inévitable. Alors en France, c'est accéléré par l'héritage de la Révolution, par le conflit, les conflits politiques du XXe siècle, et par le fait que grâce à l'Action française, la droite n'a jamais réussi à exister en France, parce qu'elle a été cantonnée dans l'idéologie contre-révolutionnaire. Il y a des quantités de raisons pour ce que vous décrivez, mais j'ajouterais qu'il ne faut pas non plus négliger, dans la conjoncture qui est la nôtre actuellement, une autre renaissance de la rhétorique antifasciste qui est encore plus bizarre, qui est celle du pouvoir russe actuel, qui a beaucoup d'égards pour un profane, pourrait ressembler au fascisme historique, mais qui est supposé lutter contre le nazisme.
Ah oui, bien sûr.
C'est quand même très intéressant. Et là, c'est une récupération directe de procédés soviétiques, si vous voulez, qui sont très différents de ce qui est à l'œuvre dans le wokisme, dans ces choses-là.
Ah, ce qui est très intéressant, excusez-moi, c'est qu'il y a dans cette propagande une espèce de télescopage entre le wokisme et le nazisme, c'est-à-dire que l'Occident est à la fois nazi et woke, et c'est en tant que nazi et LGBT, si vous voulez, et c'est en tant que tel qu'il est attaqué. Et là, je suis assez étonné de voir que cette critique-là a une certaine résonance en France. C'est-à-dire que ceux qui jugent notre société décadente et qui mènent une critique du wokisme sont tout d'un coup sensibles aux arguments poutiniens en disant que finalement, le pouvoir russe, c'est peut-être la résistance à la décivilisation dans laquelle nous sommes engagés.
Oui, cette idée a prospéré avant la guerre. Cette idée a prospéré plutôt avant la guerre d'Ukraine, mais avec le concours de Poutine, elle est beaucoup plus difficile à plaider d'une manière, ou en tout cas à rallier les esprits, comme c'était le cas avant Poutine. C'est-à-dire, Poutine s'est érigé en défenseur de l'Église, des valeurs religieuses, alors que la religion est dans un déclin terminal en Russie, comme le défenseur de la famille, alors que le taux de divorce en Russie est plus élevé qu'aux États-Unis. Mais cette guerre-là, d'une certaine manière, a freiné, en tout cas, le rôle que Poutine espérait jouer dans cette guerre gigantesque de la morale contre la dépravation occidentale.
Contre l'Occident, un Occident qui voudrait refaire la solution finale en Russie. Mais alors, j'en voudrais maintenant venir aux dernières lignes du passé d'une illusion, parce qu'elles ont fait couler beaucoup d'encre. Il dit, l'idée d'une autre société est devenue presque impossible à penser. Voilà. Donc, l'illusion se dissipe. Mais donc, nous voici condamnés à vivre dans le monde où nous vivons. Cette phrase a été très critiquée, bien sûr, et on n'a pas bien lu la suite. C'est une condition trop austère et trop contraire à l'esprit des sociétés modernes pour qu'elle puisse durer. La démocratie fabrique par sa seule existence le besoin d'un monde postérieur à la bourgeoisie et au capital où pourrait s'épanouir une véritable communauté humaine. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de promesse, Rana Levi, mais la démocratie est-elle en train de fabriquer, de refabriquer aujourd'hui ce besoin-là et qui dans le monde intellectuel, dans le monde politique, l'exprimerait. Philippe Reynaud.
Je crois qu'on a déjà commencé à en parler. Les nouvelles passions égalitaires s'articulent aujourd'hui dans la critique de l'héritage culturel d'un côté et l'antiracisme. Éventuellement articulé, enfin plus ou moins articulé sur la critique du passé colonial. Le passé colonial est plus important en France qu'aux États-Unis pour des raisons évidentes, mais c'est la même passion fondamentale qui est à l'œuvre et qui a. Mais ce qui est nouveau effectivement, c'est qu'il n'y a pas d'autre programme apparent que le. La critique à perpétuité. Simplement, ce qui fait qu'il y a quand même quelque chose qui donne une apparence de programme politique ou de promesse politique, c'est le fait que tout ça passe par la transformation du droit. C'est ça qui est peut-être nouveau, c'est que on n'espère pas vraiment une société autre, mais on espère que la même société sera peut-être corsetée par une interprétation de ses principes, l'état de droit, les droits de l'homme, etc., qui permettra progressivement d'incriminer toutes sortes de choses qui jusqu'ici passaient pour naturelles et qui maintenant expriment l'héritage du patriarcat, le sexisme systémique, le racisme systémique, etc., etc. Il y a le moyen du droit, et d'autre part, il y a quand même l'attaque continue contre l'héritage culturel, qui est un élément important de cette affaire.
Je crois que l'originalité d'aujourd'hui, c'est que l'incrimination n'a même pas besoin du droit pour s'attaquer à la société, à nos héritages. Elle se fait d'une manière culturelle, elle se fait dans les facultés, elle se fait dans le débat public. Elle n'a pas forcément besoin du droit pour incriminer le passé et incriminer le présent. Mais je dois dire que s'il fallait simplifier la dernière phrase du passé d'une illusion, je crois que ce qu'essaye de dire Furet, c'est que la démocratie, le communisme peut être mort, le fascisme appartient au passé, mais la démocratie continue forcément à produire ses pathologies. Et je dois dire sur les pathologies de la démocratie les plus récentes, il a eu quelques préciences parce que il a écrit certains articles. Il enseignait aux États-Unis, donc il y allait tous les ans et il a fait quelques articles très pertinents sur l'explosion de la correction politique à ses débuts et les conséquences que cette nouvelle révolution pourrait avoir sur le tissu social ou les tissus nationaux en Amérique. Ce qu'il peut-être ne voyez pas comme nous, c'est à quel point cette incrimination du passé, cette nouvelle pathologie, finirait par s'acclimater en Europe et notamment en France.
Notamment en France. Mais ça, c'est la vie universitaire, la vie intellectuelle. Mais est-ce que la vie politique aussi en France est affectée par ce que cette analyse de Furet, de la passion, du besoin d'un monde postérieur à la bourgeoisie, n'y a-t-il pas quelque chose de cet ordre, cette volonté par exemple de transformer l'Assemblée nationale en convention? Alors c'était plutôt une ZAD qu'une convention, mais on voit bien que la référence révolutionnaire reste très présente dans une partie importante de la gauche française.
Oui, ça certainement, mais si vous voulez, l'idée qu'on peut faire appel contre les insuffisances de la démocratie constituée à la démocratie constituante, à l'Assemblée constituante, etc. Ça fait partie du répertoire radical, je dirais, mais qui n'est pas en lui-même extraordinairement choquant. Ni nouveau, ni même... Mais ce qui est quand même intéressant dans le contexte français... C'est les modèles dont se sont réclamés les tenants de la Sixième République. Vous avez d'un côté des gens dont le projet, c'était simplement de revenir à la Quatrième, mais d'autres, bon, le chef de la France insoumise a des modèles un peu différents. Il a le modèle de l'Assemblée constituante du Venezuela, c'est pas totalement rassurant, si vous voulez.
On peut y ajouter un élément qui est inscrit dans notre génie national, c'est ce que Louis-Sébastien Mercier appelle l'esprit insurrecteur français. Oui. C'est-à-dire, nous avons une sorte d'inclination naturelle de temps en temps à faire des explosions et à secouer notre système. Et pour revenir ensuite à une sorte de calme plat en attendant l'insurrection prochaine.
Bien. Eh bien, nous ne sommes pas en tout cas dans une période de calme plat aujourd'hui, et je vous remercie pour cette conversation. Alors, je voudrais rappeler que les textes Furet sur la Révolution française sont rassemblés chez Gallimard dans la belle collection Corrato, sous le titre, justement, La Révolution française, qu'on trouve le passé d'une illusion dans un livre de la collection Bouquin intitulé « Penser le XXe siècle ». J'ai cité également Rana Lévy, « L'expérience du passé », François Furet dans l'atelier de l'histoire, livre que vous avez publié chez Gallimard, et l'abécédaire de François Furet, constitué par Déborah Furet, que vous avez préfacé, Philippe Reynaud, et qui est publié aux éditions de l'Observatoire. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amard, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Hervé Dubreuil. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Qu'est-ce que la vigilance ?» et mon invité sera Edoui Plenel. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.